Daniel, donneur de voix, 338. Les oiseaux de Fra Angelico est un recueil d'Antonio Tabucchi, paru en 1987 en Italie, édition Celerio à Palerme, et aux éditions Christian Bourgois en 1989 pour la traduction française. Traduit de l'italien par Jean-Baptiste Parra. Dans la nouvelle « Les oiseaux de Fra Angelico », qui ouvre le recueil et lui donne son titre, Antonio Tabucchi imagine, dans une rêverie poétique, que Fra Giovanni da Fiesole, plus connu ensuite sous son nom de peintre Fra Angelico, auteur des fresques des cellules du couvent San Marco à Florence, est visité par des oiseaux extraordinaires. Ces créatures étranges vont être source d'inspiration notamment pour l'Annonciation. Les oiseaux de Fra Angelico. Le premier oiseau arriva un jeudi à la fin du mois de juin, à l'heure des vêpres, quand tous les moines étaient à la chapelle pour l'office. Fra Giovanni da Fiesole, dans ses conciliabules intérieurs, continuait à s'appeler Guidolino, nom qui était le sien avant son entrée au couvent. Il se trouvait dans le jardin, occupé à ramasser des oignons, et c'était là son emploi, car en quittant le monde, il n'avait pas voulu renoncer au métier de son père, le maraîcher Pietro, qui cultivait des asperges, des courges et des oignons dans le clos de San Marco. Les oignons était de cette variété rouge à gros bulbes, très doux pourvu qu'on les mette à mollir, mais qui provoque abondance de larmes dès qu'on les tient dans la main. Il les mettait dans sa robe de bure, pliée en forme de sarrau, quand il entendit une voix qui appelait « Guidolino !» Il leva la tête et vit l'oiseau. Il le vit à travers les larmes qui embuaient ses yeux à cause des oignons. Pendant quelques instants, il fixa sa silhouette agrandie et déformée, comme par une loupe extravagante, puis il cligna des paupières pour sécher ses larmes et regarda de nouveau. C'était une créature rose et menue, délicate, avec de petits bras osseux d'un jaune pareil à celui des coqs plumés, deux pattes très maigres, elles aussi, aux jointures proéminentes et aux phalanges calleuses comme chez les poules d'Inde. L'oiseau avait un visage de vieux marmouset, mais tout lisse, avec deux grands yeux noirs et du duvet blanc à la place des cheveux. Et il le regardait, agitant ses bras d'un air las, comme pour mimer un vol qu'il ne pouvait reprendre, si bien qu'on aurait dit un mouvement répétitif et obligé. Il s'était empêtré dans les branches d'un poirier, anguleuse et pleine de nœuds. L'arbre, en cette saison, était couvert de fruits mûrs, de sorte qu'à chaque mouvement du volatile, une poire tombait et s'écrasait sur le sol. Sa posture était des plus inconfortables, avec les pattes coincées entre deux branches qui, à coup sûr, lui blessait les flancs, le bréchet de guingois et le cou tordu, car autrement il eût été contraint de regarder en l'air. Incroyables voiles en forme de triangle, deux ailes gigantesques partaient de ses omoplates et recouvraient toute la ramure, bercée par la brise avec les feuilles du poirier. Faites de plumes de couleur ocre, jaune et turquoise, mais aussi d'un vert émeraude pareil à celui du martin pêcheur, elle s'ouvrait parfois en éventail jusqu'à ras de terre, puis se refermait brusquement et disparaissait l'une sous l'autre. Fra Giovanni se frotta les yeux du revers de la main et lui dit « Était-ce toi qui m'appelais ?» De la tête, l'oiseau fit signe que non, et pointant vers lui comme un index l'ongle d'une patte, il le désigna. Moi ? Demanda Fra Giovanni avec stupeur. De la tête, l'oiseau fit signe que oui, C'était moi qui m'appelais ? Répéta Fra Giovanni. Alors, l'oiseau ferma les yeux, puis les rouvrit, toujours en signe d'approbation. Ou peut-être par lassitude, qui sait ? Car il était recru de fatigue, on le voyait à son visage, aux cernes violets et profonds autour de ses yeux. Et Fra Giovanni observa que la sueur perlait sur son front, tout un lacis de gouttelettes qui pourtant ne ruisselait pas, mais s'évaporait dans la brise du soir pour se former à nouveau. Fra Giovanni le regarda, et dans un murmure empreint de pitié, il lui dit « Tu es trop fatigué ». L'oiseau lui rendit ce regard avec ses grands yeux humides, puis il ferma les paupières et remua certaines plumes de ses ailes, une jaune, une verte et deux bleues. Il avait agité les bleues trois fois de suite, très vite. Fra Giovanni comprit, et comme on apprend l'alphabet, en détachant chaque syllabe, il répéta « Tu as fait un trop long voyage ». Puis il demanda « Comment se fait-il que je te comprenne ?» La créature écarta ses pattes autant que sa situation le lui permettait, comme pour dire qu'elle n'en avait pas la moindre idée. « Si je te comprends, c'est que je dois te comprendre, » conclut Fra Giovanni. Et il ajouta « Maintenant, je vais t'aider à descendre. » Au fond du jardin, appuyé au tronc d'un cerisier, il y avait une échelle. Fra Giovanni partit la chercher. Après avoir passé la tête entre deux barreaux pour la porter à l'horizontale, il s'en revint près du poirier et l'installa de manière que l'échelon du haut soit à portée des pattes de l'oiseau. Pour grimper avec plus d'aisance, il se défit de la robe de bure qui entravait ses mouvements et la laissa sur un buisson de sauge près du puits. Tandis qu'il montait à l'échelle, ses yeux se posèrent sur ses jambes maigres et blanches, aux poils clairsemés, et il pensa qu'elles ressemblaient à celles du volatile. Alors il sourit, car les ressemblances font sourire. Puis, grimpant toujours, il s'aperçut que sa nature s'exhibait à travers la fente de ses chausses et que l'oiseau fixait ce spectacle avec des yeux hagards, comme stupéfait et apeuré. Fra Giovanni arrangea sa mise et, reprenant contenance, il lui dit « Tu dois m'excuser, c'est une chose que nous portons, nous les hommes. » Mais l'espace d'un instant, il revit Nerina et une ferme, non loin de sienne, bien des années auparavant, une jeune fille blonde sur une meule de paille. Puis il reprit. Parfois, nous parvenons à l'oublier, mais il faut avoir le sens des nuages et faire preuve de beaucoup de volonté, car la chair est lourde et nous attire vers le centre de la terre. Il empoigna l'oiseau par les pattes. Il desserra l'étau des branches en veillant à ce que le duvet de sa tête ne subisse aucun dommage, puis il lui fit rabattre les ailes. Alors, dans une solide étreinte, il le prit par le dos et le fit descendre jusqu'au bas de l'échelle. Quelle drôle de créature ! Il ne savait pas marcher. Quand il toucha terre, il chancela, bascula sur le flanc et se mit à gigoter, les pattes en l'air, comme une poule malade, puis en prenant appui sur un bras, il haussa ses deux ailes et les fit bruire et tournoyer comme celles d'un moulin, probablement pour se relever, mais sans y parvenir, jusqu'au moment où Fra Giovanni le souleva par ses aisselles, et tandis qu'il le soutenait, les plumes frénétiques agaçaient son visage de chatouille, mais lui n'en continuait pas moins à guider les pas de l'oiseau, en le maintenant presque suspendu, comme on le fait avec les enfants. C'est ainsi qu'ils avançaient, et déployant leur alphabet intelligible pour Fra Giovanni, les plumes lui demandèrent « Qu'est-ce que c'est ?» Ce à quoi il répondit « C'est de la terre, c'est la terre !» Alors, comme ils poursuivaient leur promenade à travers le jardin, il expliqua que la terre est faite de terre, de mottes, et que dans les mottes poussent les plantes comme les courges par exemple, et les asperges et les oignons. Quand ils furent près de la voûte du cloître, la créature s'arc-bouta. Elle freina de ses deux pattes, se raidit et déclara qu'elle refusait d'avancer. Fra Giovanni l'installa sur le banc de pierre qui jouxtait le mur et lui dit de l'attendre. L'oiseau, adossé au parement, ne bougea plus, fixant le ciel de ses yeux ébahis. « Il ne veut pas se mettre à couvert, » expliqua Fra Giovanni au père supérieur. « Il n'a jamais été enfermé, il dit qu'il en a peur, qu'il ne conçoit d'autre espace que l'air libre et qu'il ignore la géométrie. » Il affirma que l'oiseau était visible pour lui seul, Fra Giovanni, que c'était comme ça et que personne d'autre ne pouvait le voir. Néanmoins, dans la mesure où il était l'ami de Fra Giovanni, en prêtant bien l'oreille, le père supérieur pouvait peut-être percevoir le bruissement de ses ailes. « Tu entends ?» lui demanda-t-il. Puis il ajouta qu'il s'agissait d'un oiseau égaré. Il arrivait d'autres espaces, après une longue errance. Ils étaient trois à s'être perdus, une petite compagnie de créatures à la dérive. Elles avaient vagabondé à travers les cieux et les mystères, et l'une d'elles avait chu dans les branches du poirier. Il dit encore qu'il fallait l'héberger pour la nuit, en veillant à ce qu'elle ne puisse reprendre son vol, car avec le retour de l'ombre, elle était la proie de la force d'ascension, et si on ne trouvait pas un moyen pour la retenir, elle repartirait vers les hauteurs, elle voguerait à nouveau dans l'éther, au hasard, emportée comme un fétu, et il ne pouvait pas le permettre. Il fallait que le couvent lui offre l'hospitalité, car à sa manière, cette créature était un pèlerin. Le père supérieur acquiesça, et ils réfléchirent à l'abri qui conviendrait le mieux. Certes, il fallait un endroit en plein air, mais qui empêcha l'ascension forcée. C'est ainsi qu'ils s'emparèrent du treillis, protégeant les primeurs des souris et des taupes, un treillis en ficelle de chanvre tressé par les vanniers de Fiesole, expert dans le maniement du fil et de l'osier. Puis ils l'étendirent sur quatre piquets qu'ils plantèrent au bout du jardin, contre le mur d'enceinte, de manière à former une sorte de hutte à ciel ouvert. Et sur la terre, dont les mottes étonnaient tant l'oiseau, ils répandirent une couche de paille sèche pour l'y installer. L'oiseau chercha une position confortable pour son petit corps, puis avec volupté, il s'abandonna sur le flanc, et dans la fatigue d'un long voyage à travers les cieux, il s'endormit aussitôt. Les moines, à leur tour, allèrent se coucher. Les deux autres créatures arrivèrent le lendemain à l'aube, alors que Fra Giovanni se rendait au poulailler de son hôte pour savoir s'il avait bien dormi. Dans la lueur du soleil levant, il les vit arriver dans un vol oblique et bas, comme si elle tentait désespérément de garder de l'altitude sans y parvenir, et, devant leurs rase-mottes et leurs effrayants zigzags, il pensa qu'elle s'écraserait bientôt contre le mur d'enceinte, mais de justesse elles l'évitèrent et reprirent leur essor, imprévisiblement. L'un des oiseaux, pareil à une grande libellule, se dressa dans l'air et vint se poser sur le mur, les pattes écartées. Il resta un instant à califourchon, comme s'il hésitait à tomber d'un côté plutôt que de l'autre, puis, la tête la première, il bascula au beau milieu du romarin. Le deuxième, qui ressemblait à une balle étrange, dessina quant à lui deux volutes en forme de boucle, presque une pirouette de saltimbanque. C'était un être tout en rondeur, auquel manquait la base du corps, un buste grassouillet, avec une queue vert pâle hérissée en brosse, et cette touffe de plumes longues et drues devait lui servir de force motrice et de gouvernail. C'est justement comme une balle qu'il touche à terre parmi les rangées de laitues, rebondissant deux ou trois fois, si bien qu'en raison de sa couleur verte, on aurait dit un plant de salade un peu plus gros que les autres, qui, par une farce de la nature, se promenait à travers les semis. Fra Giovanni hésita un moment, ne sachant qui secourir en premier lieu, puis il opta pour la grande libellule qui lui semblait plus mal en point que son congénère, enfoncée la tête en bas dans le buisson de romarin, tandis qu'une patte gesticulait au dehors pour réclamer du secours. Quand il eut sorti l'oiseau de cette mauvaise passe, il crut vraiment avoir affaire à une grande libellule. C'est du moins l'impression qu'il en retira. Ou même à un grillon, oui, il en avait tout l'air, long et maigre comme il était, dégingandé, avec des membres si fins qu'on avait peur de les briser en les touchant. Et presque translucide, de la couleur du blé quand il est encore vert. Son thorax, aussi, était celui d'un grillon, pointu, en forme de coin, sans une once de chair, rien que les os et la peau. Mais avec un plumage si ras que pour un peu, c'eût été un pelage. Doré, tout comme la haute houppe de poils luisants qui couvrait son crâne et ressemblait presque à des cheveux. Mais ce n'étaient pas de vrais cheveux. Pour l'heure, dans la position où il se trouvait, il cachait son visage. Fra Giovanni allongea le bras et d'une main craintive, il redressa l'aigrette. Alors il put voir deux grands yeux étonnés, clairs comme l'eau, puis un beau visage où le blanc de la carnation s'accordait au rouge des joues. D'une grande finesse de trait, cette face était celle d'une femme, même placée sur le corps d'un étrange insecte. Fra Giovanni lui dit « Tu ressembles à Nerina, une jeune fille que j'ai connue autrefois et qui s'appelait Nerina. » Et il s'employa à délivrer la créature des aiguilles du romarin. Avec circonspection, car il avait peur qu'elle se rompe. Et surtout, il craignait de lui briser les ailes qui ressemblaient vraiment à celles des libellules, mais grandes et fuselées, d'un rose aux reflets bleus, et veiné d'or en un lacis plus léger qu'un voile. Il prit la créature dans ses bras, elle était très légère, autant qu'une botte de paille. En traversant le jardin, Fra Giovanni lui répétait ce qu'il avait dit la veille à l'autre oiseau. L'endroit où il marchait était la terre est faite de terre et de mottes, et dans les mottes poussent les plantes, comme les courges par exemple, et les asperges, et les oignons. Il déposa l'oiseau dans la volière, à côté de l'hôte qui s'y trouvait, puis avec précaution, il alla recueillir le dernier des trois, le petit replet qui avait atterri au milieu des salades. En fait, il n'était pas aussi rond qu'il en avait l'air, son corps s'était comme déroulé pour prendre l'aspect d'un hérisson ou d'un huit, ou de ce chiffre sous une forme tronquée, car il s'agissait bel et bien d'un buste orné d'une jolie queue. Il n'était pas plus gros qu'un nourrisson. Fra Giovanni l'attrapa, et tout en lui répétant ses propos sur la terre et sur les mottes, il le soutint jusqu'à la volière. Dès que les autres l'aperçurent, ils se trémoussèrent de joie. Fra Giovanni déposa sur la paille cette boule vivante, et c'est la mine réjouie qu'il les regarda se donner de légers coups de patte, se lancer des œillades affectueuses et se caresser d'un frôlement de peine. Ils parlaient leur langage ailé et riaient dans l'allégresse des retrouvailles. Il faisait jour maintenant et le soleil brûlait. Pour que la chaleur ne puisse meurtrir ces chairs étranges, Fra Giovanni abrita un côté de la volière avec des branchages. Puis, après avoir demandé aux oiseaux s'ils avaient encore besoin de lui, auquel cas il leur suffirait de faire bruire leurs plumes, il alla ramasser des oignons pour le repas de midi. Au cours de la nuit, la grande libellule lui rendit visite. Fra Giovanni dormait, il la vit assise sur le tabouret de sa cellule, et il crut être brusquement tiré de son sommeil, alors qu'en fait il ne dormait déjà plus. C'était une nuit de pleine lune, et la clarté de l'astre profilait l'embrasure de la fenêtre sur le pavement de briques. Fra Giovanni huma une intense odeur de basilic, un arôme assez fort pour lui procurer une sorte d'ivresse. S'asseyant sur son lit, il lui demanda « Est-ce toi qui sens le basilic ?» L'oiseau posa un de ses longs doigts sur ses lèvres, comme pour lui intimer de se taire, puis il s'approcha de lui et l'embrassa. Alors, déconcerté par la nuit, par l'odeur du basilic et par ce visage candide aux longs cheveux, Fra Giovanni murmura « Nerina, je rêve à toi. » L'oiseau eut un sourire et, avant de le quitter, d'un bruissement d'ailes, il lui dit « Demain, il te faudra nous peindre. Nous sommes venus exprès. » Fra Giovanni se réveilla à l'aube, comme d'habitude, et, aussitôt après les laudes, il se rendit chez ses hôtes pour choisir son premier modèle. Quelques jours auparavant, avec d'autres convers qui lui servaient d'aide, il avait peint dans la 23e cellule du couvent la crucifixion du Christ, et il avait tenu à ce que ses collaborateurs badigeonnent le fond d'un mélange d'ocre, de noir et de cinabre, parce qu'il voulait que ce soit la couleur du désespoir de Marie qui, d'un geste pétrifié, désigne son fils mis en croix. Mais maintenant qu'il avait à sa disposition cette petite créature ronde, à la queue aussi insaisissable qu'une flamme, pour soulager la douleur de la Vierge et pour lui faire comprendre que la souffrance de son fils était la volonté de Dieu, il pensa représenter des êtres divins susceptibles de river les clous qui transperçaient les mains et les pieds du Christ. Désireux de peindre ces instruments du destin céleste, il transporta donc l'oiseau dans la cellule, l'installa sur un escabeau, le ventre en bas pour qu'il ait l'air de voler, et dans cette position, il le représenta sur les bords de la croix, plaçant dans sa main droite un outil pour enfoncer les pointes de métal. Et les frères qui avaient préparé la fresque en sa compagnie contemplaient maintenant avec des yeux médusés cette étrange créature que son pinceau faisait surgir à une vitesse incroyable des ténèbres de la crucifixion, et tous en cœur, ils s'exclamaient « Oh !» Ainsi passa la semaine pour Fra Giovanni. Il peignit et en oublia même de manger. Il ajouta une figure supplémentaire à une fresque pourtant achevée, celle de la 34e cellule, où il avait peint le Christ au jardin de Gethsémani. L'œuvre semblait déjà finie, comme s'il ne restait plus d'espace disponible. Mais il trouva une surface vacante au-dessus des arbres de droite, et c'est là qu'il peignit la grande libellule qui avait le visage de Nerina, avec ses ailes translucides et dorées. Dans sa main, il mit un calice dont elle ferait offrande au Christ. Puis, en dernier, il peignit l'oiseau qui était arrivé le premier, et comme il voulait un mur ample qui permît une bonne perspective, il opta pour celui du couloir du premier étage. Il peignit d'abord un portique, avec des colonnes et des chapiteaux corinthiens, puis le raccourci d'un jardin derrière une palissade. Enfin, il fit poser l'oiseau, et comme il lui demandait une génuflexion, la créature prit appui sur un siège pour ne pas tomber. Il lui demanda aussi de croiser les mains sur la poitrine, en signe de révérence, et lui dit « Je te couvrirai d'une tunique rose, car ton corps est trop ingrat. Je ne dessinerai pas la Vierge avant demain, il te suffit de tenir bon cet après-midi, ensuite vous pourrez repartir. » Je vais faire une annonciation. » Le soir même, il avait fini. Le crépuscule tombait et il se sentait un peu las. Il était la proie de la mélancolie que procurent les choses une fois terminées, quand il n'y a plus rien à faire et que le temps a passé. Il se dirigea vers la volière et la trouva vide. Il ne restait que 4 ou 5 plumes accrochées au filet de chanvre et qui flottait dans la fraîcheur du vent descendu des coteaux de Fiesole. Fra Giovanni crut sentir une intense odeur de basilic. mais dans le jardin il n'y avait pas de basilic. Il y avait des oignons, par contre, et depuis une semaine qu'ils attendaient la récolte, ils se gâtaient peut-être, et bientôt ne seraient plus bons pour la soupe. C'est pourquoi il partit les arracher avant qu'ils ne pourrissent. Ici se termine la lecture des oiseaux de Fra Angelico.